Ay, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía y la dostima y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño, nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida?
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on
Radio Pleine Lune dans le 3.8 MHz. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Lausanne. Et puis aujourd'hui, comme il pleut et que vous ne voyez pas la lune, au moins vous l'avez dans vos oreilles, c'est déjà bien. Mais comme il pleut et que je suis très malheureuse, vous pouvez me téléphoner déjà pour me dire bonjour et puis téléphoner aussi pendant l'émission que Marie-Ange a concoctée. Marie-Ange, qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Eh bien voilà, par ce temps pluvieux, effectivement, et d'abord, bonjour, bonsoir.
Il y a un petit problème, excusez-nous, dans quelques secondes, on revient. Marie-Ange est une horrible qui a oublié d'ouvrir son micro, la voilà.
Eh bien voilà, bonjour, bonsoir, chers auditrices, chers auditeurs. N'est-ce pas que vous êtes là ? Bien sûr, bien sûr. Eh bien, c'est vrai qu'il pleut. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il pleut ? Ben, on reste entre ces murs et on regarde un peu ce qui se passe autour de soi. Alors, les cuisines trop petites, les salles de bain étriquées, les placards, espaces de rangement inexistants. Et je m'arrête là parce que sinon, on va me taxer des pessimistes. Eh bien, ce soir, pour parler du sujet, nous avons deux invités. Ursula Paravicini, qui va nous parler de son livre qui vient de sortir et qui est en vente déjà, dont le titre est Habitat au féminin. Et Suzanne Lerch, qui va l'interroger sur le sujet, étant architecte toutes les deux. Alors d'abord, Ursula Paravicini, bonsoir.
Bonsoir.
J'aimerais que tu nous dises un peu qui es-tu, tu es architecte.
Oui, alors je m'appelle Ursula Paravicini, c'est ça, on le pose un tout petit peu de problème, mon nom, mais ce n'est pas si grave. Je suis architecte, j'ai fait mes études d'abord à Lausanne, où si justement je suis retournée avec ce livre, puisque je l'ai présenté d'abord sous forme de thèse, et qu'il est sorti aux presses polytechniques romandes il y a maintenant 2 mois en Suisse, il est en vente en France. J'ai passé par un parcours professionnel assez différent de peut-être de la règle de la plupart des architectes, parce que j'ai passé d'une pratique professionnelle dans des bureaux d'architecture à une pratique d'enseignement et de recherche qui est justement allée dans le sens de faire de recherche sur le sujet présenté.
De là, tu es partie aussi travailler dans le privé, n'est-ce pas?
Oui, alors si tu veux, pour aller plus, pour expliquer un peu mieux, j'ai d'abord, après mon diplôme à Lausanne, j'ai fait 5 années de travail comme architecte à Londres, où j'ai travaillé comme architecte dans un bureau pour les collectivités locales, et on a fait surtout de l'habitat. Et là, j'ai été confrontée au problème d'un jeune architecte, des modèles, des comment on construisait des logements qui ne me semblaient pas être tout à fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai commencé à réfléchir sur la question. J'ai quitté Londres pour Paris, où j'ai eu la chance de travailler comme professeur d'architecture dans une école d'architecture et où j'ai fait en même temps des recherches pour le compte des ministères. Et c'est là où, en fait, a commencé le travail qui est maintenant présenté sous forme de livre. Je crois que peut-être tu m'avais demandé comment ça avait commencé, je crois.
Voilà. Donc moi, ça m'intéresserait beaucoup que tu nous expliques, d'une part, comment a commencé cette recherche, qu'est-ce qui a été le point de départ. Et pourquoi, donc, qu'est-ce qui t'a motivé donc à traiter ce thème?
Oui, alors justement, ce livre avait commencé avec un appel d'offres qui était lancé à l'époque dans le ministère français sur Femmes et Habitat, dans lesquels on pouvait répondre au niveau historique, ce que j'ai fait. Et c'est vrai que ça me permettait de rejoindre deux préoccupations complémentaire, une préoccupation professionnelle qui était de réfléchir sur l'habitat, mais en même temps aussi une préoccupation plus, je dirais, plus politique et sociale qui était sur la condition des femmes, où je suis partie prenante en tant que femme de réfléchir d'une manière différente à notre rôle, et dans le sens que analyser l'habitat, c'est à mon avis indissociable d'analyser la condition des femmes. Je crois que c'est dans ce sens que j'ai posé les questions.
Parce que justement, donc, j'ai sous les yeux ce livre qui est un livre magnifique, grand format avec beaucoup, beaucoup d'illustrations. Et la page de couverture, je trouve qu'elle est assez trompeuse par rapport au contenu. Ça s'appelle « Habitat au féminin ». Il y a 3 très jolis dessins. Alors, en voyant ce livre, on pourrait croire que c'est un livre presque sur la décoration des maisons.
C'est vrai, tu as eu cette impression.
Non, c'est pas très bien. Oui. Et puis, en fait, on l'ouvre et on commence à lire et oui. On voit que c'est pas du tout ça. C'est vraiment une analyse avec des thèses très intéressantes sur justement la relation entre la situation de la femme et l'évolution de l'habitat. Alors j'aimerais peut-être que tu nous expliques un petit peu justement quelles sont les thèses principales que tu as voulu développer dans ce livre.
Oui, d'accord. Alors je crois qu'une première chose, c'est la préoccupation que j'ai toujours en tant qu'architecte, c'est de travailler avec des modèles architecturaux qui sont en fait les modèles courants avec lesquels fonctionnent finalement tous les architectes, mais aussi tous les maîtres d'ouvrage, qui sont des modèles qui sont en même temps des modèles architecturaux et en même temps des modèles sociaux. C'est-à-dire que justement l'organisation spatiale, à mon avis, est tout à fait liée à une organisation familiale et à une condition de la femme, un rôle de la femme à l'intérieur de l'espace domestique qui ne peuvent pas être dissociés. Les deux vont ensemble. Et ma thèse, ça a été de dire que en fait, ce modèle a émergé, s'est constitué au cours du 19e siècle dans les couches bourgeoises pour se transformer lentement et prendre la forme que l'on connaît dans l'habitat contemporain, dans l'habitat de masse contemporain. Dans le logement du 19e siècle, dans le logement bourgeois, ce modèle est apparu en même temps que s'est constituée la famille moderne, la famille avec le couple conjugal, les enfants, c'est la cellule plus restreinte, dans laquelle la femme est appelée à jouer un rôle central, à garantir en fait le bien-être domestique. Et ces valeurs qui se mettent en place au XIXe siècle, qui consolident ce modèle domestique spatial, consolide un mode de vie bourgeois, va être un modèle qui va guider les architectes dans la définition d'un modèle d'habitat pour les couches populaires. Donc ça, c'est une première chose, c'est d'essayer de retracer comment se met en place ce modèle d'habitat qui est lié à un modèle d'organisation familiale. Et que ce modèle qui s'est mis en place il y a déjà un bon moment, en fait, ne correspond plus du tout au mode de vie contemporain. Et que donc, il y a un décalage croissant entre ce que nous construisons sur ce modèle et les aspirations des usagers, d'une manière générale, et en particulier des femmes aujourd'hui. Je crois que c'est le centre de mes préoccupations.
Mmh. Peut-être qu'on pourrait entrer un petit peu plus en détail sur ta méthode de travail. Donc tout d'abord, tu as fait des recherches sur le terrain.
Oui.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les trois terrains que tu as choisis?
Oui, alors peut-être on revient à justement ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que ça avait été un appel d'offres auquel j'avais répondu. Et j'ai eu la chance de pouvoir demander l'aide, je dirais l'aide scientifique, d'une historienne je crois s'est fait vraiment un nom en France, Michèle Perrault, qui a sorti toute une série de livres, d'études, sur d'un côté la condition des femmes, surtout au XIXe siècle. Elle a fait par exemple des travaux sur les lavoirs, sur la vie des femmes dans les quartiers ouvriers. Elle a aussi travaillé sur l'espace urbain. Donc ces deux choses, ces deux axes de recherche qu'elle a menés de front depuis un bon moment et sur lesquels elle a fait des publications, évidemment, m'avait toujours beaucoup intéressée. Et quand j'ai commencé à faire ce travail, je suis allée je l'ai contactée sans la connaître. Elle a eu une réaction extrêmement sympathique puisqu'elle était prête à participer comme conseillère à ce travail. Et c'est donc avec son aide qu'on a défini les terrains de recherche. Alors, on a défini trois terrains de recherche qui étaient des villes au 19e et 20e siècle significatives pour leur époque et dans lesquelles le travail des femmes était tout à fait différent. Ça nous permettait de voir, au-delà d'une vision trop souvent généralisante et trop souvent en France centrée sur Paris, une vision très parisienne des choses, de voir un peu au-delà. Alors on a choisi Roubaix, dans le nord de la France, qui est une ville textile et qui est justement la ville par excellence dans laquelle les femmes ont toujours travaillé, très nombreuses, y compris les mères de famille. Les mères des familles ont travaillé même quand elles avaient des enfants. Deuxième terrain de recherche, c'était Denain, également dans le nord de la France, dans le nord industriel, qui est une ville minière et sidérurgique. Aujourd'hui, comme Roubaix d'ailleurs, une ville terriblement en crise, point de vue économique, et qui, dans laquelle les femmes, justement, ne travaillaient que très peu. En tout cas, elles travaillaient, pour ainsi dire, plus une fois qu'elles étaient mariées. Parce que dans la vie des mineurs, la femme, le rôle de la femme est un rôle tout à fait différent que, bon, sur lequel peut-être on peut revenir. Et puis le troisième terrain, c'était Paris et sa banlieue, en particulier sa banlieue ouvrière, dans le nord, dans lesquelles il y a des situations très différenciées. Des femmes travaillant dans le centre parisien, dans le textile au XIXe siècle, en partie à domicile, et dans la banlieue parisienne, de plus en plus dans les grandes usines taylorisées de l'entre-deux-guerres. Donc on pouvait la couvrir d'une manière différenciée, des conditions très différentes, tout en ayant aussi des échantillons au niveau du bâti, très différent dans le nord, les cités ouvrières et en particulier dans les charbonnages, et à Paris, les immeubles de location, les immeubles dans lesquels sont assises les familles ouvrières. Et on peut peut-être encore ajouter, c'est que on a analysé en même temps, non pas seulement des conditions de vie différentes selon les villes, mais aussi selon les classes sociales. Hein, je crois que c'est aussi un des points qu'on voulait regarder ensemble, c'est que j'ai essayé toujours d'analyser, d'une part, les femmes dans la classe bourgeoise et de l'autre côté, dans les familles ouvrières.
Voilà. Et tu as très bien analysé l'interaction, disons, qu'il y a justement entre les modèles et l'évolution de la famille bourgeoise et comment ces modèles, d'une manière complètement ratatinée, se projettent dans les appartements pour la classe ouvrière.
Oui. Oui, c'est ce que j'ai essayé d'amorcer tout à l'heure. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est un peu trop long à développer, je crois. Je crois qu'il faudrait plutôt renvoyer à ce qui est dans ce livre. C'est-à-dire que j'ai, dans une première partie de ce livre, j'ai parlé des femmes dans l'univers urbain du 19e et de l'entre-deux-guerres. Et puis, j'ai analysé le contexte urbain dans lequel elles vivaient, donc ces trois terrains, en montrant comment les femmes, comment vivaient les femmes bourgeoises et dans quelles conditions elles habitaient. Alors, une première chose, je crois, c'est en me basant justement sur des analyses d'historiennes qui ont participé ces dernières années à interroger l'histoire au niveau de l'histoire des femmes. Parce que je crois que ça, c'est une des grandes préoccupations que je peux partager avec d'autres femmes et des femmes historiennes, c'est que finalement, l'histoire des femmes a été occultée. L'histoire officielle, on pourrait dire, c'est en fait l'histoire des hommes, faite et écrite par les hommes. Et on met de côté, on ignore beaucoup trop souvent le rôle qu'ont joué les femmes. Et ce rôle, il n'est absolument pas un rôle passif, mais au contraire, un rôle actif. Et c'est si intéressant, aussi bien dans toutes les classes sociales, finalement, aussi bien dans la classe bourgeoise que dans les couches populaires.
Que siempre el tren, un ladrido de perros a la luna, la pobre escondido en un portón, y los sapos redoblando en la laguna, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio. Calles lejanas, ¿cómo estarás?
Alors, pour en revenir donc, aux femmes de la bourgeoisie, tu as souligné dans ton livre qu'en fait, elles ont eu un rôle actif à l'intérieur de leur classe.
Oui, alors c'est tout à fait. Je crois que ça, c'est intéressant. On a en général une vision des femmes comme les femmes douces, fragiles, qui sont toujours en retrait un peu de tout. Et ce qui est intéressant, là, justement, dans le cadre, dans le contexte d'une ville industrielle du Nord comme Roubaix, dans le textile, c'est de voir qu'en fait, les femmes avaient joué un rôle de grande patronne tout au long du 19e siècle. C'était des femmes très, très entreprenantes qui travaillaient à côté de leur mari et qui ont participé à la constitution du capital familial et à l'établissement des grandes firmes du textile. Et ce qu'on peut voir, ce que j'ai essayé de retracer, c'est qu'avec l'établissement de ces grandes firmes, le travail des femmes devient, donc des grandes bourgeoises, devient en fait plus une nécessité. Et qu'à ce moment-là, il y a une transformation du rôle des femmes en même temps qu'une transformation de l'habitat. Tant que les femmes participent à la marche de l'entreprise, l'habitat des capitaines de l'industrie se trouve dans l'enceinte même de l'industrie ou vraiment à proximité immédiate, alors qu'à la fin du siècle, au début du XXe siècle, il y a tout à fait un nouveau habitat qui se met en place dans des quartiers périphériques, un peu à l'abri du mouvement populaire, de la fumée, de l'agitation politique des quartiers industriels. Et là, les femmes vont jouer un rôle nouveau comme maîtresse de maison. Et disons, c'est là que se constitue justement, en même temps que cette famille où la femme joue un rôle d'éducatrice, de maîtresse de maison, je dirais, accomplie. Et en même temps aussi, le rôle d'une femme qui non seulement est la mère de ses enfants, mais en même temps, c'est la dame charitable, la patronesse, la grande patronesse, dame d'œuvre dévouée, qui s'occupe également c'est une maternité sociale, je dirais. Et qui s'occupe donc à ce niveau-là des familles ouvrières. Et en même temps, il y a un modèle d'habitat nouveau qui va être une référence jusqu'à aujourd'hui et surtout va être une référence pour la définition d'un modèle d'habitat pour les couches, populaires. Je crois que c'est une continuité entre ce modèle d'habitat bourgeois et le modèle qu'on connaît aujourd'hui.
Justement, une des choses qui m'a beaucoup intéressée dans le livre, tu parles donc justement de la destruction en fait du mode de vie ouvrier à travers l'habitat et à travers la généralisation de ce modèle. Alors, tu donnes une série d'exemples, donc ça se joue et au niveau de l'architecture elle-même et au niveau d'une série de mesures coercitives directement. Je ne sais pas si tu voudrais donner quelques petits exemples concrets en deux minutes.
Alors peut-être il faudrait juste donner quelques éléments complémentaires juste avant de donner des exemples. Il faudrait peut-être dire que j'ai analysé les logements pour les couches populaires de cette période en allant de logements d'entreprise, donc surtout dans les villes minières sidérurgiques, aux logements philanthropiques du début du siècle, qui sont quantitativement très peu nombreux, mais qui sont des éléments qui permettent de faire une expérimentation architecturale et qui mènent vers les premiers logements sociaux de l'entrée des guerres, ce qu'on avait appelé en France les HBM, les habitations à bon marché, qui sont vraiment les précurseurs des logements sociaux contemporains. Et il y a une continuité d'expérimentation architecturale tout le long, jusqu'à ce que se cristallise ce modèle avec lequel nous opérons encore aujourd'hui. Et ce qui m'a semblé très intéressant, c'est de voir que tous les architectes et les maîtres d'ouvrage d'époque qui ont travaillé sur ces modèles ont été guidés par les valeurs de leur classe, parce qu'en fait, sont tous des bourgeois qui travaille pour mettre en place un logement qui se veut être un logement décent pour les classes populaires. Et c'est là où il ne faut pas être noir-blanc. Je crois que c'est contradictoire. Le logement social tel qu'il se mettra en place est d'un certain côté l'octroi d'un logement décent pour un nombre croissant de personnes et de familles. Et ça, c'est tout le côté qui est toujours mis en évidence. Et ça, c'est évident qu'il ne faut pas le sous-estimer comme portée sociale. Mais ce que tu m'as posé comme question, c'est la double dimension. C'est qu'en même temps, il est vecteur d'un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs familialistes, je dirais, imprégnées des valeurs domestiques bourgeois et qui sont complètement en contradiction avec les modes de vie de l'époque dans les couches populaires. Dans les quartiers ouvriers de la fin du 19e siècle, il y a une vie extrêmement animée, extrêmement dense, une vie de quartier, de voisinage, qui est en fait polarisée autour d'une part de l'usine, mais l'usine est à côté des habitations, et dans les habitations, les femmes ont une vie dans une entraide quotidienne très importante. Et donc, il y a toute une communauté qui fonctionne dans une vie de voisinage telle que nous connaissons plus du tout aujourd'hui. La mise en place de ce logement d'entreprise philanthropique et après des logements sociaux est centrée sur une vie familiale et pas une vie de quartier. C'est tout à fait le contraire. On veut donner aux familles populaires un logement décent, mais il faut, quelque part, on veut les éduquer à rester à l'intérieur de ce logement. On veut éloigner le père de famille du cabaret qui était le lieu d'agitation politique. Et c'est la femme qui doit être éduquée à devenir, comme en fait à l'image de la bourgeoise, le centre du logement qui réussit à attirer toute la famille dans le cadre de ce logement. Et par là, il y a quelque part une déstructuration de ce mode de vie très communautaire qui existait. Les exemples précis que tu m'as demandé, d'abord cette éducation, si on veut dire, à une vie familiale, c'est fait de manière, je dirais, autoritaire. C'est carrément des dispositifs par exemple, dans les cités minières, il y a interdiction de sous-location. Alors, interdiction de sous-location, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre des logeurs, ce qui était une pratique courante de l'époque et qui était très mal vue par les moralistes bourgeois qui ne voulaient pas tolérer qu'il y ait d'autres hommes dans la famille que le père de famille, parce que très souvent, il y avait des relations sexuelles entre le logeur et les filles de la maison, soit voir avec l'épouse. Et c'était une chose qui était courante, qui ne suscitait pas des grands problèmes. C'était une façon d'intégrer le nouveau venu à la ville. Il y a aussi des dispositions draconiennes de nettoyer, d'entretenir la cité ouvrière. Et les femmes étaient obligées de nettoyer tous les jours le trottoir. Il y a les gardes de la compagnie minière qui venaient contrôler si réellement c'était fait. Ça, c'est le début, je veux dire, les logements d'entreprise. Alors que dans l'entre-deux-guerres, ces dispositifs deviennent plus subtils. Ce n'est plus des mesures autoritaires, mais en fait, c'est le logement lui-même qui doit éduquer la mère de famille à un certain nombre de valeurs. Je crois que c'est là où ça devient en fait le plus intéressant, c'est de voir comment l'habitat peut imposer une certaine façon de vivre. Et c'est toute la discussion autour de ce qu'on appelait le logement de l'existence minimum, donc le logement fonctionnalisé à l'extrême, qui a été promu par le mouvement d'architecture moderne, avec tous les grands noms que nous connaissons comme architectes, que ce soit Le Corbusier, que ce soit Gropius, que ce soit encore Bruno Taut, qui avait écrit un livre sur la femme et le logement et qui donnait des dispositifs plus particuliers pour éduquer la femme. Je crois que ce que j'avais développé surtout, c'était la cuisine. Je ne sais pas si tu veux qu'on revienne là-dessus.
On écoute un peu de musique.
Je suis trop longue.
La rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Silbidos allá en la esquina.